Passion.
Passion FM.
Pour vous et avec vous.
Bonjour Isabelle et Merlin, bienvenue sur Les Fruits de ma Passion, c'est un grand plaisir. Nous accueillons ici une écrivain de thriller et ma foi, ça fait toujours plaisir le frisson qui nous envahit les chines. Alors Isabelle et Merlin, vous venez de France, de Saint-Forien, d'un petit village qui se trouve dans le sud de la Gironde, ou sud de Gironde, je ne sais pas comment on le dit, pardonnez-moi de mon belgicisme. En tout cas, bienvenue sur Les Fruits de ma Passion.
Merci beaucoup, merci à vous.
Alors, je lis avec plaisir, chère Isabelle, que vous vivez à 40 kilomètres de Bordeaux. Ma foi, quel joli paysage.
Oh, tout à fait, entre les vignes, nous avons aussi un petit peu un paysage landais et nous avons aussi la plage qui n'est pas loin.
Voilà, mais que rêver de mieux, nous qui venons du Nord. Oh, oh, quel temps fait-il chez vous aujourd'hui?
Magnifique. Un beau ciel bleu turquoise sans un nuage. Et un grand soleil, donc.
Eh bien, profitez-en bien. Alors, Isabelle, vous écrivez sur votre nom, c'est-à-dire Isabelle et Merlin. Et Merlin, est-ce que c'est votre nom de jeune fille ou votre nom d'épouse?
Non, c'est mon nom d'épouse, Hermelin. Oui, c'est mon nom d'épouse.
Et, comme on l'a dit, vous vivez à Saint-Forien. À Saint-Forien, c'est un nom qui ne nous est pas inconnu, loin s'en faut. Pourquoi ce nom nous dit-il quelque chose?
Parce que c'est le village, c'est la ville de Villiers-Jature, pardon, de François Mauriac. Donc, nous avons son chalet qui est à quelques mètres de nous, de chez nous, de notre maison. Et maintenant, c'est devenu une maison d'auteur. Enfin, les gens qui souhaitent peindre, écrire dans le calme. Voilà, ça a été repris par le conseil général. Et Saint-Léger de Balzon, qui est le village, qui à un ou deux kilomètres de notre maison aussi, c'est là où on peut admirer l'église dont parle Mauriac dans Thérèse d'Esquerou.
Ce n'est pas étonnant dès lors que vous-même vous vous lancez dans l'écriture, mais avant de vous lancer dans l'écriture, ma foi, vous maniez le stylo, la plume ou le clavier, je ne sais pas, puisque votre travail vous demandait l'écriture de thèse.
J'ai écrit, pas des thèses, parce que je suis pas allée en doctorat, j'ai écrit un mémoire de maîtrise, oui. Une maîtrise, maintenant on appelle ça un master 1, mais non, j'ai pas écrit de thèse, mais effectivement, j'ai eu quelques travaux d'écriture auparavant.
Alors, vous devez avoir un homonyme, puisque j'avais trouvé sous votre nom, Isabelle et Merlin, à rédiger la thèse, et j'allais vous poser la question, mais je l'oublie, recherche d'un métabolite inconnu de l'amopyroquine, étude de réaction biomimétique. Ce n'est pas de vous.
Du tout.
Ah, mais ça, du voilà tout. Qui me rassure.
Non, moi je suis simplement anthropologue. Non, du tout. Non, pas du tout. Et effectivement, les mémoires, on peut être connu qu'à partir de la thèse. Les mémoires, ça reste entre étudiants, quoi, plus ou moins. Enfin, ça reste au sein de la fac.
Ça dépend. Il y en a quelques-unes qui ressortent parfois. Petite, vous rêviez d'être paléontologue.
C'est vrai. Oui. Parce qu'en fait, à l'époque, j'avais mes parents qui étaient abonnés à la revue Géo. Mmh. Et du coup, je la lisais souvent et j'avais été fascinée par un article sur la paléontologie. Et donc, voilà, je voulais être paléontologue.
Et qu'est-ce qui a fait que vous ayez changé de direction?
Oh, après, c'est des rêves d'enfant, comme on rêve d'être pompier, j'imagine, ou quelque chose comme ça. Après, on change. Mais bon, j'ai toujours été passionnée par les sciences humaines et par les sciences sociales. Enfin bon, sciences humaines, c'est quand même un peu plus proche, par l'histoire et tout ça.
Là, c'est amusant parce que, amusant si l'on peut dire, c'est qu'aujourd'hui, vous êtes aide médico-psychologique. Vous travaillez pour des personnes adultes à déficience mentale et polyhandicapées.
Alors, polyhandicapées... J'ai travaillé avec des personnes polyhandicapées pendant 14 ans. Et là, j'ai demandé ma mutation parce qu'un établissement s'est ouvert à côté de chez moi, tout simplement. Et là, ce sont des personnes adultes, oui, qui ont eu une vie active, qui ont travaillé avant d'être chez nous. Voilà, là, ce sont des personnes qui sont retraitées.
Vous voyagez beaucoup. On l'a dit, vous êtes anthropologue de formation. Cela explique peut-être cela. Et vous êtes maman de deux enfants, je crois. Alors, ce qui m'amuse, c'est que quand vous êtes stressé, vous écoutez quoi? Vous écoutez du métal. Alors là, il faudra qu'on m'explique.
Ah, oh, c'est un bon défouloir, hein?
Oui, j'imagine, mais ce n'est pas reposant.
Oui, mais en fait, je sais pas. Moi, ça me ressource, voilà.
Super, voilà.
Je ne peux pas l'expliquer plus que ça.
Alors Isabelle, si je me suis permis de vous inviter sur les fruits de ma passion, c'est parce que vous avez édité un livre qui s'appelle « Le passeur des âmes » d'Ilan. C'est un thriller, c'est un thriller qui est édité près d'une maison dont nous avons eu l'occasion d'interviewer l'une par des fondatrices, ou peut-être la fondatrice, mais en tout cas des pierres angulaires. C'est A4PM. Et
oui.
Ce thriller, Le passeur des âmes d'Ilan, c'est malgré tout quelque chose de très noir.
Oui, tout à fait. Oui, c'est vraiment très noir, oui.
Est-ce que les affaires sectaires, ces affaires de morts en série qui ont touché la France il y a quelques années avec le Temple du Soleil, vous ont orienté vers l'écriture de ce thriller?
Non, du tout. C'est plus les lectures de Stephen King, Thomas Harris et des choses comme ça qui m'ont plus... Oui, voilà, c'est ça. C'est plus ça, je dirais, quand même.
Voilà. Alors, il y a des personnages très attachants, enfin, très attachants si l'on peut dire. Vous avez un certain monsieur Bergaillac, c'est ainsi que vous le prononcez. Il a deux
compagnons. Oui, Alexandre Bergaillac, oui.
Voilà, deux compagnons assez sympas, Eddie Fall et Gorgo. Alors, comment vous êtes-vous? Comment cette idée a fleuri dans votre esprit qu'un homme, tout d'un coup, se met dans la tête de vivre avec deux compagnons qui sont des rats?
Oh, écoutez, il y avait quelque chose qui m'avait fascinée il y a quelques années. Je marchais rue Sainte-Catherine, qui est une grande rue dans Bordeaux, une grande rue piétonnière, et j'avais vu un monsieur avec un père noir, un étudiant, qui sortait de ses poches de sa parka des petits rats blonds, en fait. Et j'avais trouvé ça, je sais pas, ça m'avait... Et du coup, cette curiosité-là, je l'ai remise dans le roman. Vous savez, on pioche comme ça pas mal de choses, voilà.
C'est assez amusant, c'est vrai qu'il y a une époque où c'était une mode de se promener, enfin, pas tout le monde, mais il y avait de temps en temps, vous croisiez de temps en temps dans la rue, une personne qui avait souvent, ne soyons pas péjoratifs, mon Dieu, qui avait souvent une tête un peu spéciale et qui se promenait avec un rat sur l'épaule. C'était assez interpellant, hein.
Oui, tout à fait. Et du coup, j'avais gardé... Enfin, puis ça m'est revenu comme ça dans le roman. J'ai dit, tiens, ça serait pas mal que cet homme seul, plutôt que d'avoir un chat, un chien, un lézard ou je ne sais pas quoi, les rats blancs, ça m'est revenu comme ça, voilà.
Voilà, il a deux rats blancs et en dehors de ces deux rats blancs, il vit avec le souvenir de Jaws, sa sœur.
Tout à fait. Oui, et puis le lien est forcément très très fort puisque c'était des jumeaux. Enfin, même s'ils sont faux jumeaux, c'était sa sœur jumelle.
Est-ce que vous avez vécu dans votre entourage avec des jumeaux ou de faux jumeaux?
Du tout, non.
Parce qu'on ressent très fort ce lien que vous essayez de placer entre ces deux personnages.
Non, j'ai pas. Mais bon, c'est un lien que je connais. J'ai lu des choses dessus, puis voilà.
Combien de temps il vous a fallu pour écrire ce thriller? Parce qu'il est bien documenté, malgré tout.
Oui, il m'a fallu 2 ans, parce qu'en fait, effectivement, à l'époque, donc, je travaillais dans une maison d'accueil spécialisée, j'avais plus d'une heure de route, donc j'avais mon travail qui était assez loin, plus mes deux enfants, plus... Enfin, c'est vrai que j'ai mis 2 ans à l'écrire, ça a été très, très... J'avais un jour, et par semaine à peu près, en moyenne, pour pouvoir l'écrire.
C'est vrai, quand vous êtes maman... Donc, oui. Les mains bien remplies en dehors de votre travail. Votre travail, évidemment, qui est très prenant, puisqu'il est avant tout tourné vers l'humain. Et puis, vos quelques heures de loisirs, voilà. Heures de loisirs, au lieu de les passer devant la télévision ou autre chose, vous les passez devant votre écriture. parce que votre compagnon, votre époux, a dû malgré tout subir cet isolement.
Oh non, parce qu'en fait, quand j'écris, j'ai pas besoin de circonstances particulières ou de conditions particulières, mais par contre, il faut que je sois seule. Donc effectivement, mon mari était au travail et mes enfants à l'école. Même si je l'ai récupéré pour manger le midi, j'étais toute seule. Parce que je peux pas être interrompue, maman, nana. Des fois, j'avais pas tout à fait fini mon écrit, y rentrer. Donc c'est vrai qu'après, je peux pas écrire avec des gens à la maison, c'est pas possible. Sinon, effectivement, il faudrait pouvoir s'isoler. Et pour l'entourage, c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus souhaitable.
Mais vous plongez dans un roman noir, dans un thriller, et puis refaire surface dans la vie de tous les jours, est-ce que, quelque part, ce n'est pas une difficulté, parce qu'on s'enfonce dans son histoire, dans ses meurtres, dans ses enquêtes, et quand vous revenez à la réalité, est-ce que cela ne vous poursuit pas? Est-ce que vous ne traînez pas derrière vous des lambeaux de votre histoire?
Non, alors c'est... Parce qu'on... on peut y penser. Après, je sais pas, c'est peut-être mon travail qui fait ça, mais dans mon travail, on est confronté à la psychose, à des gens qui peuvent être en crise, à de la violence, à des choses qui sont des choses merveilleuses, mais des choses qui sont plus difficiles. Et je sais pas comment ça peut venir, mais à force, on a cette faculté de, on ferme la porte du travail, on a fermé la porte du travail. Enfin, je sais pas, on ferme le fichier quand on est en train d'écrire sur l'ordinateur, on passe à autre chose. Enfin, c'est peut-être ça, du coup. Parce que j'ai pas eu d'épisodes difficiles de mon travail qui m'ont après envahi dans ma vie privée, enfin plus mon entourage ou comme ça. Je sais couper les choses, enfin un peu cloisonner comme ça, oui.
Isabelle, vous comprenez bien que parler d'un thriller sans le dévoiler...
C'est très très dur, vous savez. Quand j'ai des signatures dans les salons et tout ça, quand les gens me demandent d'histoire, c'est vrai qu'on peut pas en dire beaucoup. Surtout non, sinon que celui-là a un aspect un petit peu fantastique et c'est vrai qu'on peut pas, le dévoiler.
C'est pour ça justement que je tourne un peu autour du sujet sans réellement le toucher, vous m'en excuserez, mais je crois que c'est une nécessité. En tout cas, je conseille aux auditeurs de le lire, c'est à lire et à découvrir, ça je vous l'assure. On parle de corps mutilés, ça on peut le dire, au départ il y a deux corps mutilés, plus une troisième tuée à l'arme blanche. Et alors là, ça démarre un peu, ça démarre carrément, mais avant il y a surtout la description psychologique de plusieurs personnes. On a parlé de ce monsieur et de ces deux rats, on n'en a pas parlé, d'un personnage qui commence votre roman, c'est-à-dire une personne qui se réveille un peu brumeux, qui se demande un peu ce qui se passe, et c'est vrai qu'on ne comprend pas trop où il va nous emmener, et puis je n'en dirai pas plus, voilà, vous n'avez qu'à lire le bouquin. Tant pis pour vous. Et en plus, ce qui est important à dire, c'est qu'il n'est pas cher, il ne coûte que 13 euros.
C'est un premier roman, donc effectivement, je pouvais pas... Enfin, pour moi, je voulais fixer un prix qui puisse être abordable partout. C'est quand c'est un premier roman, on peut pas... Enfin, pour moi, c'est pas... Comme on n'est pas connu... On peut pas, vous voyez ce que je veux dire, on n'a pas la célébrité qui nous permet d'avoir un prix un peu plus rondouillé ou sans dire excessif, mais un peu plus élevé, quoi, je pense.
Voilà, j'avais suivi aussi les commentaires d'un blog, c'est le blog qui s'appelle Les mots de Nanée, c'est un blog que j'aime beaucoup, que je suis régulièrement, et j'ai trouvé que cette fois, ils étaient particulièrement sévères sur votre ouvrage, et là je ne rejoins, mais alors là, pas du tout leur cotation, bien que les cotations sont des plus honorables. Hein. Vous avez des cotations que je les retrouve, 3,5 sur 5 pour le style, intrigue 2,5 sur 4, ça je trouve vraiment vache, et personnages 3 sur 4. Alors, je leur dis simplement, avec tout le respect que je leur dois, parce qu'ils sont importants, je leur dis là, franchement, vous auriez pu faire un effort. Bien entendu, c'est un avis qui n'engage que votre serviteur. Voilà. Vous êtes partie sur un nouveau roman actuellement, une nouvelle écriture?
Oui, donc je garde la thématique du passeur des âmes et je garde mon détective privé quand même. Enfin, Monsieur Bergaillac étant devenu détective privé par la suite. Et je... Oui, je pars, mais par contre, l'histoire du tueur en série étant terminée, je garde donc le thème qui est développé dans Dylan, mais je pars sur quelque chose d'un peu différent.
Donc vous allez parler de secte encore ?
Oui, forcément, mais plus là on va remonter jusqu'à l'origine de l'humanité. Enfin, j'ai quelques petites idées assez croustillantes, mais bon, voilà.
Mais impatient de les découvrir, en tout cas. Est-ce que vous allez chercher un autre éditeur ou vous allez rester auprès de cette maison d'édition à 4PM,
non,
je le rappelle.
Je vais rester avec cette association, et tout à fait.
C'est une association des plus actives, hein. Ils sont hyper sympas, et ils offrent une aide des plus constructives aux auto-édités. C'est important souvent pour les premiers, comment dirais-je, pour les premières éditions, puisque c'est pas évident du tout de chercher un éditeur, ou en tout cas d'en trouver un, et puis ça représente.
Oui, puis en plus, nous, quand j'ai sorti, mon livre, c'était en mars 2014, et je partais, je l'avais achevé. Oui, est-ce qu'on a vraiment achevé? Disons, j'avais mis le point final. Et c'était en février, et c'est vrai que je cherchais à éditer, et c'est vraiment très touffu, l'édition. Enfin, il y a une quantité de maisons d'édition. Enfin, moi, je me suis un peu perdue, et du coup, l'association, c'est une amie qui m'a dit, mais tu sais, j'ai ma tante qui écrit, qui est publiée, voilà, il pourrait peut-être t'aider.
Vous pouvez effectivement, me rappeler son nom.
Muriel Garrigue. Et du coup, c'est vrai que ils ont su bien m'accompagner, bien me conseiller. Enfin, ils ont des conseils très professionnels. Ils relisent aussi votre roman. Enfin, c'est vraiment, ils sont vraiment très très bien, très sympathiques. Ils donnent plein d'adresses. Très bien.
J'avoue que personnellement, je les aime beaucoup, et si je devais à mon tour, et qui suis-je pour le faire, mais enfin, si je devais à mon tour faire des cotations comme des maisons d'édition pseudo-auto-éditeurs, mais qui demandent des sommes faramineuses à des auteurs en laissant, ma foi, des pages remplies de fautes d'orthographe, et là, je salue votre maison d'édition, parce qu'ils font un travail de fond, et ils mériteraient de ne pas s'appeler auto-édition, mais édition tout court. Là, franchement, je crois que ce terme est à revoir.
Oui, tout à fait, parce que, enfin, ils sont vraiment très, très, très professionnels, tout à fait. Les ouvrages sont de qualité, oui.
Les ouvrages sont de qualité, les couvertures sont bien construites, les textes sont bien balancés, les mises en page, je crois que je l'ai dit, je m'en souviens plus, sont bien faites. Et le prix surtout, mais c'est vrai aussi que l'auto-édition vous permet de travailler différemment. Il y a juste peut-être un petit bémol, tout petit, ce serait au niveau de la distribution.
Ah ben là, c'est les auteurs qui font le travail, oui, effectivement. On se débrouille pour aller dans les espaces culturels, mais bon, l'association nous aide, fournit les adresses des salons et tout ça, mais c'est vrai que c'est nous qui démarchons.
Mais je vous rassure, vous savez, quand vous êtes édité par une maison d'édition, ce travail reste quasiment le même. La seule différence, c'est peut-être la promotion.
Oui, là c'est vrai, oui. Peut-être, mais c'est le plus difficile de se faire connaître. Parce que je vois mon mari, bon, qui est dans un autre domaine qui est la musique, pour arriver à se faire connaître et tout, c'est pareil, c'est pas évident.
On a parlé de vos prochains projets, et puis quels sont vos projets de dédicace? Est-ce que vous prévoyez des salons prochainement?
J'en ai un là le 8 mai, le week-end prochain. J'en ai un autre en juin, j'en ai pour la rentrée en septembre, octobre, voilà. Oui, parce que du coup, je reprends la promotion du livre, étant partie donc autour du monde pendant 11 mois. Donc c'est vrai que... Oui. Je ne sais pas si je vous l'avais mis dans le questionnaire, du coup, que vous m'avez envoyé. Mon livre est apparu en mars 2014. Donc j'ai fait un petit peu le tour de tous les espaces culturels et tout ça. Donc là, j'ai eu pas mal de dédicaces, j'en ai vendu pas mal. J'étais obligée d'en rééditer parce que j'en avais sorti 200 et en juin, j'en avais plus assez pour finir mes dédicaces. Et le 2 juillet, je me suis envolée pour le Québec, à Montréal, avec toute la... Enfin, pas que moi, avec mon mari et mes deux enfants. Mmh. Et nous sommes partis pour 11 mois d'aventure. Enfin, pas tout à fait 11 mois. On est revenu le 19 mai à Saint-Symphorien, 2015. Donc, on est parti du 2 juillet au 20 mai 2015.
Eh bien, vous savez... 2001. C'est sympa cette relation, vous savez Isabelle, nous avons eu le plaisir de recevoir sur cette même antenne le président de l'Association des écrivains francophones du Québec, du Canada. Et voilà que vous me dites que vous êtes parti sur le Canada. C'est un pays que j'aime beaucoup et je salue les quelques auditeurs canadiens qui nous font l'honneur de nous écouter. Et vous êtes revenu du froid vers Bordeaux, le chaud, mais vous allez attraper un rhume.
Non. On a passé, voilà. Donc, on est parti Québec. On est arrivé aux États-Unis. On a fait l'île Saint-Martin. On est descendu l'Amérique du Sud. On est resté un moment avec le Pérou, la Bolivie, le Chili, l'Argentine, le Brésil. Ensuite, on a mis le cap sur l'Afrique du Sud. En fait, on a eu 6 mois de chaud. On a fait la Réunion, l'Inde, la Thaïlande, le Laos, le Cambodge, la Chine, enfin, et on a fini par la Mongolie, où nous avions des températures négatives, la neige, et nous sommes arrivés en plein mois de mai à Bordeaux. Donc c'est vrai qu'on s'est un petit peu découvert au fil du voyage, du retour, parce que c'est vrai qu'on a eu chaud en rentrant, oui.
J'imagine, et qu'est-ce qui a motivé ce voyage?
Ah mais ça c'est... Un vieux rêve d'étudiant, ça date, donc j'étais à l'époque en maîtrise d'anthropologie, et je me souviendrai toujours, on était dans un cours avec la prof qui nous présentait son terrain en Afrique, au Burkina Faso, et qui parlait d'avoir trouvé des transistors, des bouteilles de Coca-Cola en pleine brousse, et je me suis dit, mon Dieu, il faut que je fasse le tour du monde avant que toutes ces cultures, toutes ces soient... Vous voyez, un peu effacé, confondu, enfin, avec cette mondialisation, je voulais retrouver les gens, les rencontrer, et voilà. Est-ce que aller à la rencontre de toutes ces différences, de toute cette richesse, en fait.
Êtes-vous une personne engagée?
Oui, je pense qu'on est, enfin, on est tous engagés, même celui qui se dit ne pas être, qui se dit être apolitique, il fait déjà de la politique, enfin bon, ça c'est un peu philosophique, mais...
Oula. Oui. Et donc, vous avez réalisé ce grand rêve, ce rêve de voyage avec votre époux et avec vos enfants. Vous êtes revenu sur Bordeaux, mais c'est incroyable parce que pour un premier bouquin, arriver à distribuer 200 livres, c'est pas mal, hein.
Et là, au retour, donc j'en avais réédité 200 avant de partir, mais il doit m'en rester moins de 180, 90 livres, je crois.
Donc, vous pouvez sincèrement dire, sans complexe, que c'est une première réussite.
Ah oui, je suis très contente, enfin surprise et très contente à la fois. Enfin, c'est... Oui, je... Et puis, ça vous...
On motive. Hein.
Ça vous rassure, voilà, ça vous porte, voilà, c'est ce que je voulais dire.
Dites-moi, d'où vient la photo du quatrième de couverture? On vous voit la tête penchée. On devine une volonté de paraître un peu sombre, un peu noir, mais vous ne pouvez pas empêcher vos yeux de sourire.
Mais en fait, j'ai beaucoup de gens qui passent à la maison, beaucoup d'amis qui vont, qui viennent, et donc je cherchais justement une photo pour mettre sur la quatrième de couverture, et ça n'allait jamais, personne trouvait que c'était bien, que c'était machin, et donc j'ai un ami qui m'a pris en photo, et on a fait, et puis j'aime pas ça du tout, en fait être photographiée comme ça, bon bref. Et du coup, ça n'allait pas non plus. Et en fait, il m'a eu par surprise. Il a changé l'angle de vue et tout le monde a dit bah, « c'est celle-là qu'il faut, voilà, c'est tout ».
Mais c'est vrai.
C'est un petit peu amusé.
Oui, c'est amusant parce que le titre de votre ouvrage, c'est « Le passeur des âmes ». Et quand on voit votre photo, on ne peut s'empêcher de faire une certaine relation puisque pour certaines peuplades, pour certaines civilisations, prendre une photo, c'est prendre l'âme de la personne.
Complètement. Et notamment pour certaines ethnies en Amérique du Sud, il faut absolument, oui, ne pas les prendre en photo.
Et quand
parce
vous...
qu'on leur vole leur âme. Mm-mm.
Vous avez rencontré les Inuits ?
En fait, c'est très étrange. Nous avons rencontré un Inuit, mais en Mongolie, figurez-vous. Et oui. On était avec les nomades, au milieu des yaks et tout ça. On faisait notre petit périple avec les nomades. Et nous avons rencontré un Inuit qui recherchait ses origines.
Hein ?
Oui. Parce qu'avec le jeu des migrations et tout ça, c'est vrai qu'il y a des similitudes au niveau culturel, voilà. Donc il était parti en Mongolie et donc nous l'avons rencontré dans les steppes mongoliennes. Ça c'était c'était très très amusant, oui, très très inattendu, oui.
Comme quoi le monde est un village.
Tout à fait.
Et ce retour de ces 11 mois de périple autour du monde, est-ce que ça vous a laissé intact ?
On a envie de repartir déjà, et puis c'est extrêmement riche. Il y a, je dirais qu'il y a beaucoup de choses qu'on va relativiser. Enfin, déjà... Par rapport à tout ce qu'on appelle le progrès, j'étais déjà très 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 mitigée, et c'est vrai que quand on revient, enfin moi je sais que ça m'a renforcé certaines convictions, certaines choses auxquelles on apporte de l'importance et qui sont vraiment insignifiantes. Tout ce qui est notamment matériel et tout ça, enfin il y a des choses que je trouve auxquelles on attache de l'importance et qui devraient pas être si importantes que ça. Et je trouve qu'on est conforté là-dedans et on relativise beaucoup plus de choses.
C'est vrai. Donc, c'était un voyage initiatique et ça vous a bien réussi, apparemment.
Ah oui. oui. Puisque nous, même mon mari, qui était moins aventurier, je pense qu'il voudra repartir aussi. Enfin, c'est pas que je pense, j'ai aucun doute. Voilà. Ça a convaincu tout le monde. Mes enfants... se racontent souvent des histoires, hein, ils se refont un tour, qu'est-ce qu'ils aimeraient aller voir et tout ça. Enfin, eux aussi se projettent dans des voyages.
Et quel genre d'instrument joue votre époux ?
Il est pianiste.
Donc c'est difficile de se promener avec son instrument. Hein.
Tout à fait. Et mais autour du monde, donc c'est vrai que lui, par contre, pour jouer... Mais il a eu l'occasion d'avoir un piano de temps en temps, notamment, je crois, quand on sur, enfin, il y a une espèce de promontoire où on voit tout Montréal en bas. Je crois que c'est ça au Québec. On est pris en photo et il y avait un piano, donc il a pu jouer là. En Afrique du Sud, on est tombé sur un backpackers où il y avait un piano aussi qui était un peu dédié à la musique et tout ça. Donc c'est vrai qu'il a eu quelques occasions comme ça de jouer au cours du voyage.
Et bien voilà qui est sympa. Jeudi 9 juin 1994 pour les Belges et les Suisses. Minuit. Un jeune homme relève la tête lentement. Abasourdi, il aperçoit son reflet dans le miroir. Un visage émacié, livide, décomposé, sur lequel perlent des gouttes d'eau et de sueur. Dans sa bouche pâteuse persiste un goût âcre et amer. Son estomac douloureux est noué et assailli par des crampes lancinantes. Nauséeux, il se passe à nouveau de l'eau sur la figure. Ses mains moites tremblent. Son regard vert exprime son incrédulité horrifiée. Il chuchote pour lui-même. Impossible, jamais vu ça, c'est un cauchemar. Je vais me réveiller. Un frisson le parcourt. L'angoisse sourde, il ne peut chasser de ses pensées ce qu'il vient de voir. Ça, c'est le quatrième de couverture de Le Passeur des âmes d'Ilan. C'est écrit par Isabelle Hermelin. Ça coûte 13 euros, ce n'est pas très cher, et c'est édité chez A4PM Éditions. Nous avions, je vous l'ai dit, eu l'opportunité d'avoir l'une de ses responsables en ligne, que je salue de tout mon cœur, et je les encourage à continuer parce qu'ils nous ils nous font découvrir des auteurs de talent qui, je suis certain, nous allons pouvoir les suivre longtemps encore. Isabelle et Merlin, je vous remercie d'avoir participé aux fruits de ma passion. Je vous remercie pour le sourire qui sort de votre voix, pour ce voyage que vous nous avez partagé. Et j'invite tous les auditeurs à se renseigner sur votre livre qui est disponible sur Internet, c'est ça ?
Oui, oui, tout à fait. Il est disponible en ligne. Et mais après, voilà, soit par email, soit voilà, après on s'arrange, voilà. Ou ils peuvent le commander directement, le paiement est sécurisé, enfin, voilà, tout est fait dans les règles de l'art, puisque mon mari est programmeur de métier, il est développeur, donc il a tout fait ça bien.
Est-ce que l'on peut rappeler les adresses internet sur lesquelles découvrir votre livre ?
www.tdm-hermine.com/projet/dylan.php
www.tdm-le-, c'est le tiret qui se trouve pour les claviers belges à côté de l'astérix, donc ce n'est pas le souligné, c'est le tiret. Hermine, Hermine au singulier ?
Oui, oui, oui. Parce qu'en fait, Hermelin, on a découvert que dans les pays du Nord, je crois, si je dis pas de bêtises, ça veut dire Hermine. Et comme mon mari est breton, nous avons gardé le symbole, voilà.
Donc Hermine, c'est avec un H.
Oui, oui.
Donc tdm-hermine avec un H, point com.
Slash projet au singulier, slash dylan.php. Et là, vous êtes sur la page Le Passeur des Ânes, Dylan. Vous pouvez, il y a les 70 premières pages qui sont en lecture. Enfin, les gens comme ça peuvent voir les 70 premières pages, les feuilleter. Et après, effectivement, on peut le commander directement. Voilà, il y a ajouté au panier, tout ça. Enfin, tout est fait pour pouvoir le commander.
Alors, je reviens un peu avec à vos séances dédicaces. Vous nous avez donné les dates de dédicaces, mais vous ne nous avez pas donné les lieux.
Alors là, le 8 mai, je suis dans les Landes à Parenti sans bornes. C'est la 13e édition du Salon du Livre Voix Libre. Après, le 4 et 5 juin, c'est le 2e Salon du Livre. C'est Les Mots en Liberté à Gujan-Mestras. Là, c'est le salon de l'association A4PM. Après, j'en ai un où je vais au Salon du Livre à Mazamet, le 22 mai. C'est une date assez importante. Ils remettent des prix et tout ça. Donc d'ailleurs, j'ai mis le livre en concours, si je puis dire ça comme ça. Après, c'est pour la rentrée, en fait.
Justement, vous serez au Salon du Livre de Mazamet. On vous retrouvera sur place. D'ailleurs, j'étais présent à la conférence de presse qui présentait le salon, le parrainage de ce salon. Donc Michel Sabartès, qui est le président de ce salon, que je salue ici, et puis tous les nombreux salons de la région, qui sont, ma foi, des plus actifs et des plus intéressants. Voilà Isabelle, je vous remercie infiniment pour le temps imparti, pour ce temps que vous nous avez consacré, pour ce temps que vous nous avez fait gagner, et pour le plaisir de cette discussion. Je vous souhaite le plus beau chemin possible, et puis au plaisir de vous entendre. À bientôt Isabelle.
À bientôt et merci à vous, merci beaucoup. Au revoir.